Filmez-moi, l'émission cinéma mensuelle sur Jet FM. En ce début de printemps, je suis ravie de vous retrouver à nouveau dans Filmez-moi, votre rendez-vous mensuel cinéma sur Jet, la radio indestructible, toujours libre, curieuse et audacieuse. Alors ce mois-ci, nous parlerons d'un coup de cœur à voir dans vos salles préférées, de l'actualité locale du cinéma sous toutes ses formes, et nous parlerons aujourd'hui réalisation avec Céline Novel. On évoquera avec elle son parcours, son travail d'autrice, réalisatrice. On parlera de quelques films de son choix. Bonjour Céline, je suis Bonjour. Ravie de t'accueillir. Bienvenue.
Merci.
Alors plongeons dans l'univers de mon coup de cœur du mois après ça. Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est un des sons du film « Ce qu'il reste de nous », composé par Amin Bouafa, superbe musique d'Amin Bouafa. Alors, c'est mon coup de cœur du mois. C'est un film dur et tendre à la fois, de la scénariste, autrice, productrice, réalisatrice américaine Cherianne Dabis. Alors, Cherianne Dabis, elle avait réalisé en 2009 « America » et en 2013 « May in the Summer », présenté au festival de Sundance. Donc dans le film « C'est qu'il reste de nous », elle a choisi de nous raconter l'histoire d'une famille palestinienne depuis 1948. Et elle a puisé dans les souvenirs de sa propre famille pour nous raconter le destin sur trois générations de Palestiniens originaires de Jaffa. Donc une famille, membre de la bourgeoisie commerçante, vivant dans une belle villa attenante aux champs d'orangers qu'ils cultivent et exportent, mais qui sont emportés en 1948 par la guerre, lors de la création de l'État d'Israël. Ils sont chassés, déclassés, relocalisés en Cisjordanie dans un camp de réfugiés. Alors, en 1948, lors de la Nakba, ou la catastrophe qui a entraîné l'exil forcé de plus de 700 000 Palestiniens arrachés de leurs terres, le patriarche de la famille, Sharif, est emprisonné dans un camp de travail pour avoir refusé de quitter sa maison à Jaffa. Après quelques mois, il réussit à rejoindre sa famille dans un village qui n'est pas encore occupé. Et puis, devant l'avancée de l'armée israélienne, la famille est déplacée à nouveau dans un camp de réfugiés à Naplouse, où son fils et ses petits-enfants continueront à vivre pendant 30 ans. D'autres de ses enfants choisiront l'exil au Canada. Alors son fils Salim, interprété par le très talentueux Saleh Bakri, qu'on avait admiré dans le splendide « Bleu du caftan » en 2022 de Mariam Touzani. Son fils donc est devenu professeur des écoles, mais il traîne avec lui une vie vraiment triste, sans perspective, une vie en butte au contrôle des soldats israéliens. Et dans une scène essentielle, Salim est humilié par des soldats israéliens sous la menace d'une arme devant Nour, son fils d'une dizaine d'années. Le père et le fils partagent cette expérience qui va les éloigner l'un de l'autre, sans que Hanan, l'épouse et la mère, qui est jouée par Sherrianne Dabis elle-même, ne soient tenues au courant de ce nouveau trauma destructeur. Et ce trauma, il ressurgit 10 ans plus tard, en 88, quand il propulse Noor, plein de la rage de son grand-père, dans la foule d'une manifestation anti-israélienne lors de la première intifada. Noor, il est atteint par une balle de soldat israélien. Il est hospitalisé à Haïfa, mais au vu des contraintes de l'administration israélienne, son hospitalisation tardive ne permet pas de le sauver. Un dilemme se présente alors à ses parents. Doivent-ils accepter le don d'organes, donc des organes de leur fils, proposé par l'hôpital, sachant qu'il pourra servir à sauver un futur soldat israélien, potentiellement responsable de nouveaux morts palestiniens? Donc, entre esprit de revanche et humanité, ils devront choisir. Et les scènes de doute et d'échange à ce propos, en particulier avec un imam que les parents consultent, sont particulièrement émouvantes. Le fait que Salim et Hanan finissent par quitter la Cisjordanie pour s'installer au Canada puise dans l'histoire de la migration aux États-Unis des parents, donc de la réalisatrice. Et seule leur citoyenneté dans un pays étranger leur permet de retourner sur leur terre natale. Et dans la dernière partie du film, on voit le couple vieilli visiter une Jaffa touristique qui sont ironiquement bienvenus là où s'est joué le premier acte de leur exil forcé et prolongé. Le film y redonne de la visibilité à l'histoire du peuple palestinien. Il permet aussi de montrer des visages, donner des visages à ces Palestiniens au-delà des chiffres. Il permet aussi de saisir ce qu'a éprouvé réellement la population en se mettant en empathie avec ce qu'il a enduré pendant 75 ans. La réalisatrice, elle assume complètement qu'elle veut donner vie à des pans entiers de l'histoire palestinienne effacés par les vainqueurs dans les livres d'histoire et dont les voix sont étouffées dans les grands médias. Elle assume de déconstruire le mythe de la terre sans peuple. Et le film y pose aussi la question de ce que les Palestiniens font de leur colère, de leur traumatisme et s'il existe un moyen de canaliser la rage. Alors l'art, à coup sûr, que ce soit la littérature ou le cinéma, contribue à ne pas effacer cette histoire et à en cultiver la mémoire. On peut noter aussi que Sherrianne Dabis était en repérage à Jaffa 2 semaines avant le début du tournage, quand l'attaque du 7 octobre a eu lieu. Donc le film, il a dû être tourné à Chypre, en Grèce et en Jordanie. Le tournage, qui devait durer 3 mois au départ, a duré 11 mois, avec 4 équipes dans 4 pays. Donc c'est un film bouleversant, magistralement réalisé et interprété. Est-ce que tu l'as vu, Céline ?
Et non.
Donc à voir, hein, il est encore projeté au Concorde à Nantes et certainement dans d'autres cinémas du département. Alors commençons maintenant à explorer les choix de mon invité après ça.
Thank you.
Alors, Céline, tu as reconnu hein, dès les premières notes.
Oui, tout de suite, c'est All Joy de Kelly Rickard.
Oui, tout à fait. Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est un des sons donc, du film All Joy. Et la musique a été composée par Yo La Tango, le groupe. Donc, c'était le deuxième film de la réalisatrice Kelly Rickard. Il est sorti en 2007. Il a été présenté au festival de Sundance en 2006. On a pu voir récemment de la même réalisatrice The Mastermind. Alors, All Joy, c'est un film méditatif d'une beauté sereine, mélancolique. Donc, c'est l'histoire, rapidement, de Mark, interprété par Daniel London, marié, futur père de famille, qui habite à Portland et qui accepte de partir un week-end dans les bois de l'Oregon avec son ancien ami Kurt, interprété par Will Oldham, éternel adolescent un peu paumé. Alors, il s'était perdu de vue, il se trouve confronté à leurs différences quand il se retrouve. Mark, il est de nature calme, réservée, et il suit un peu avec appréhension Kurt, qui l'emmène camper aux Cascade Mountains, près de sources chaudes. Alors, les deux hommes, accompagnés du chien de Mark, se perdent, ils passent la nuit dans la forêt, ils se baignent dans les sources chaudes. Et la réalisatrice, elle raconte le conflit latent entre un homme qui a accepté de grandir et puis un autre qui le refuse. Mais il n'y a pas de crise, il n'y a pas de révélation fracassante, mais juste une succession de scènes à peine dialoguées qui sont mises en scène de telle sorte que chaque mot, chaque silence résonne longuement. Et ce week-end, finalement, va mettre leur amitié et leur vision de la vie différente à l'épreuve. Alors Céline, pourquoi ce choix? Pourquoi est-ce que tu as choisi ce film All Joy? Qu'est-ce qui t'a plu dans ce film?
Je ne m'attendais à rien de ce film. Je ne connaissais pas cette réalisatrice et il m'a vraiment bouleversée par sa délicatesse. C'est aussi une réalisatrice qui s'est filmé le temps entre les gens et de ce qui se passe dans les silences, justement. Et je me sens assez proche du personnage qui n'a pas grandi, qui reste en fait très habité par cette ancienne amitié qui reste accroché en fait à son enfance, qui n'a pas évolué comme l'autre personnage. Et j'ai trouvé ça, mais ça m'a bouleversé en fait ce rapport-là de découvrir, oui, qu'on n'est plus, plus les mêmes. Il y en a un qui a grandi, l'autre pas.
Oui, oui, c'est très, très, très joliment, en tout cas, montré. Hein, oui. Joliment amené, je trouve. Mm. Hein, sans qu'on ait besoin vraiment d'explications, sans que ce soit explicite.
Hein. Oui, ni sans conflit. Moi, oui. Je suis pas... J'aime quand ça se passe en non-dit et dans une douceur, mais en fait, Kelly Rickard, elle est aussi très précise dans ce qu'elle raconte. Rien n'est superflu, ça s'installe progressivement. Et j'aime aussi beaucoup son rapport à la nature qui est extrêmement présente et qui est un vrai personnage dans le film.
Oui, tout à fait. Merci pour ça. Alors, continuons à explorer les choix de mon invité après. Ça.
Il faut que mon cœur se calme. 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 Cette nuit, affolée, il m'a tenue éveillée auprès de mon mari qui s'était endormi, son corps contre le mien, ne se doutant de rien. Et quand le jour venu, il a quitté la chambre, frôlant de ses pieds nus le tapis rouge tendre. Dans un souffle léger, je lui ai murmuré: enferme-moi dans tes bras, ne me quitte pas, ne t'en va pas, attache-moi au lit, je n'aurai pas un cri, je t'en supplie, retiens-moi. Mais je l'ai dit trop bas. Puis la porte claqua, il n'était déjà plus là. Et seul, maintenant ici, je ne pense qu'à Eli. J'en ai le souffle court, j'ai envie de faire l'amour. J'en ai le souffle court, j'ai envie de faire l'amour.
Alors Céline, tu as reconnu?
Oui, j'ai reconnu la voix de Delphine Seyri, qui est une actrice que Chantal Akerman a fait tourner plusieurs fois.
Oui, alors ça, c'est effectivement la chanson « Cette nuit », une des chansons chantées par la splendide Delphine Seyri dans le film « Golden 80s ». Et c'était l'actrice fétiche de Chantal Akerman. Alors, ce n'est pas ce film-là que tu as choisi, Céline, mais c'est le dernier film de la réalisatrice belge. Le film s'appelle « No Home Movie », qui est sorti en 2014, un an avant la disparition de Chantal Akerman. Alors, dans ce film, elle montre sa mère à la fin de sa vie et jusqu'à sa mort. Et ce film documentaire, il alterne entre des discussions mère-fille dans l'appartement de Bruxelles, des paysages désertiques et des conversations sur Skype. La réalisatrice, elle avait l'habitude de filmer sa mère dans son appartement de Bruxelles et elle a récupéré 6 heures de rush et elle a décidé d'en faire quelque chose avec la complicité de sa complice de toujours au montage, Claire Atherton. Donc, c'est un film assez artisanal qui a été tourné et monté à la maison, où l'on retrouve l'attirance de la réalisatrice pour les longs plans fixes et pour les longs travelling aussi. Elle a posé sa caméra dans la cuisine, dans le salon, dans la chambre de l'appartement de Bruxelles et elle filme le temps qui passe sans laisser apparemment de marque. Donc les murs de l'appartement, les pièces, le lieu de l'intime sont finalement des remparts contre les assauts de l'angoisse existentielle, comme souvent d'ailleurs dans son cinéma. C'est aussi un lieu de l'amour mère-fille, un lieu des mots du tendre, un lieu des souvenirs qui se racontent par bribes. C'est aussi un film sur la perte, parfois tendre, parfois cruelle. Et c'est aussi un film sur le monde qui bouge sans que la mère ne le voie. Chantal Akerman, elle pensait que c'était son film le plus immédiat, qu'il pouvait parler à tout le monde, que chacun y trouverait un écho à sa propre histoire familiale. C'est ce qu'elle en pensait. Et plus généralement sur son travail, elle disait « Je me laisse faire par ce que je vois et ce que je sens. Il y a des désirs d'images qui me viennent, de rencontrer des gens, mais je n'ai pas de plan. Pendant le film, je me laisse imprégner. Je suis comme une éponge qui coule de façon flottante. » Alors Céline, pourquoi ce choix, le choix de ce film Home, No Home Movie?
Je l'ai choisi parce que quand je l'ai vu au cinéma, je l'ai trouvé culotté d'avoir fait ce film avec des rushs qui étaient assez pourris parce que le son est assez mauvais par exemple. Je pense qu'elle n'avait aucun projet mais elle avait le besoin de filmer cette mère qui l'accompagne, qui l'a toujours accompagnée dans sa carrière d'une manière ou d'une autre. Et elle a fait ce film envers cette image pas toujours très bien construite, ce son qui n'est pas net, mais il y a cette relation à sa mère qui est très puissante et aussi, comme vous disiez, fait, ce passage du temps, et on sent que la disparition est inéluctable. Et il y a un plan notamment où elle est dans le salon avec sa mère, et il y a sa sœur aussi, elle a une sœur qui est plus jeune qu'elle. Et la sœur est beaucoup moins angoissée que Chantal Akerman. Et il y a, ce plan m'a vraiment marqué. Elles sont assises toutes les trois, et on voit que la mère est très diminuée. Et en fait, Chantal Akerman s'éjecte d'une chaise, elle disparaît du plan. Ouais. Et il y a quelque chose de viscéral dans ce qu'elle tourne, mais toujours avec une grande radicalité. Et moi, je crois que c'est ce qui m'intéresse globalement chez les cinéastes, c'est oser la radicalité, ce qui n'est pas forcément beau, mais qui est juste par rapport à leur démarche.
Mmh. Oui, c'est vrai que c'est très très juste. C'est sans doute pour ça qu'elle disait qu'elle pensait que c'était le film qui toucherait les gens au plus près. Celui qui toucherait le plus les spectateurs. En parlant de radicalité, on peut parler aussi de Jeanne Dielman, bien sûr déjà avec Delphine Seyrig.
Oui, c'est une épreuve quand même un peu physique, hein, Jeanne Dielman, je ne sais plus combien de temps il fait, avec des très 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 longs plans séquences, mais pareil, moi une fois que je plonge dans cette temporalité tellement exceptionnelle, enfin, qu'on ne voit jamais au cinéma, et qu'on ressent pas à ce point, on est avec ce personnage totalement, alors qu'il y a une très forte distance aussi par rapport à la manière de filmer, qui est très cadrée, très stricte.
Oui, maîtrise.
Ça. Très maîtrisée. Maîtrise. Et en fait, il y a quelque chose d'incroyable qui se passe.
Oui, on se reconnaît aussi quelque part, hein, dans cette espèce de routine, de quotidien, de choses qui se répètent, On se demande où ça va nous mener, et puis en fait, ça nous ramène à des choses de très, très, très juste, très profonde finalement.
Oui, c'est aussi un miroir. C'est un comment miroir. Comment le quotidien nous happe. On fait pour s'en essayer.
Et je ne sais pas si tu penses à des réalisateurs ou réalisatrices actuellement qui adopteraient un peu le même approche que Chantal Akerman. Moi, j'en vois pas trop, à dire.
Je pense plutôt à un cinéaste, en tout cas dans son rapport au temps, sur la durée des plans et sur ce qui se passe à l'intérieur, qui est tellement, c'est l'humain quoi, l'humain dans sa temporalité. C'est Frédéric Wiseman qui est mort,
qui vient de disparaître,
et que j'adore. J'ai failli en mettre un de Frédéric Wiseman parce que je trouve que dans son rapport au temps, il a la même radicalité qu'elle.
Oui, on a pu voir une rétrospective au cinématographe d'ailleurs de tous ces films, certains qui durent très longtemps, documentaires en noir et blanc, qui nous font aussi découvrir la société américaine, enfin des États-Unis, de façon très 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 juste, très quotidienne, très profonde.
Oui, puis il consacre du temps à chaque personnage qui croise. Ces personnages, ce n'est pas du décorum, ils existent réellement dans toute leur singularité. Des fois, ils sont étranges, des fois, ils vous mettent un peu mal à l'aise, ou au contraire, ils sont charmants. Et ils disent quelque chose de ce vivre ensemble. En fait, j'ai l'impression que Wiseman était un peu obsédé par l'idée de, quels que soient nos avis, d'une manière ou d'une autre, il faut qu'on se parle et qu'on vive ensemble.
Tout à fait. Alors redécouvrez le cinéma de Frédéric Wiseman, ce grand réalisateur, immense réalisateur, et puis le cinéma de Chantal Akerman également, qui a marqué son époque aussi à sa façon. Continuons à explorer les choix de mon invité après ça.
Thank you.
Alors Céline, tu as reconnu pratiquement tout de suite, hein, première note.
Oui, un film que j'ai découvert récemment et que j'adore, c'est Tout le monde aime Jeanne de Céline Deveau.
Oui, tout à fait. Alors ce qu'on vient d'entendre, c'est un des sons donc, du film Tout le monde aime Jeanne. Et la musique, elle a été composée par Flavien Berger. Alors c'était le quatrième film de la réalisatrice Céline Deveau et son premier long métrage. Il est sorti en 2022. Auparavant, elle avait réalisé 3 films d'animation, parce qu'elle est dessinatrice aussi, dont Le repas dominical en 2015, dont on a déjà parlé dans Filmer moi, avec la voix de Vincent McCain. Alors, Tout le monde aime Jeanne, c'est l'histoire de Jeanne Mayer, interprétée par la talentueuse Blanche Gardin. Jeanne Mayer, elle est ingénieure, elle a inventé une machine écologique capable de récupérer les déchets plastiques. Mais le lancement de son dispositif tourne au fiasco. Alors elle tombe en dépression, elle se retrouve au bord de la faillite personnelle et son frère l'encourage à vendre l'appartement à Lisbonne de leur mère qui s'est suicidée un an auparavant. Donc Jeanne part à Lisbonne et elle y rencontre un ancien copain de classe, Jean, interprété par le génial Laurent Lafitte. Alors Jean, il est kleptomane, il est un peu naïf, c'est un ancien dépressif, et il est aussi désinhibé que Jeanne est introvertie. Et finalement, ce qui les unit, c'est une certaine vision idéaliste du monde. Alors Jeanne, elle erre comme une âme en peine dans l'appartement de Lisbonne, hantée par le fantôme de sa mère. Et grâce à Jean et à son frère, elle retrouve goût aux choses simples de la vie. Alors, ce qui donne de la légèreté à cette histoire, quand on la raconte plutôt tragique, c'est le dispositif qu'a choisi la réalisatrice. En entrecoupant les scènes d'action des personnages par des séquences animées, avec un espèce d'énergumène chevelu entre fantôme et Cro-Magnon, ironique et harcelant, qui incarne en fait la petite voix intérieure de Jeanne, qui lui dit qu'elle a raté sa vie, qui la freine dans ses envies et qui l'empêche de lâcher prise. Et quand Jeanne disparaît, elle reprend au contraire goût à la vie petit à petit. C'est cette petite voix harcelante qui se transforme, qui finit par baisser le ton et par disparaître. Donc c'est un film drôle, tendre, c'est une comédie décalée et très touchante. Alors Céline, pourquoi ce choix ?
C'est une amie belge qui me l'avait conseillé. Je l'ai loupé à sa sortie en salle. Et j'ai trouvé le ton très juste et vraiment casse-gueule parce qu'effectivement, ça parle de la dépression. Oui. Et en même temps, c'est extrêmement drôle. Le procédé est évidemment super, mais les fictions et animations... avec ce petit être hirsute qui est juste génial, sa petite voix intérieure, ses pensées toxiques. Mm. Et j'aimais, d'abord les comédiens, ils sont formidables. Ils sont joués, moi j'aime beaucoup les personnages un peu qui jouent avec distance, les comédiens qui jouent avec distance leurs personnages, comme Blanche le fait là, et puis Lafitte, il est aussi absolument génial, parce qu'il aurait pu être ridicule. Il est attifé d'un espèce de chapeau.
Oui, les tenues sont assez incroyables.
Mais oui, et en fait, il pourrait être ridicule, et en fait, il est juste tellement classe, il est tellement très, très juste dans sa manière de jouer. Ouais. Et ce qui m'a aussi énormément plu, c'est la relation mère-fille aussi, là, où la mère est franchement toxique. En tous les cas, Blanche, c'est ce qu'elle a retenu de son rapport à la mère. Et j'aime beaucoup ces personnages de mère qui ne sont pas qu'on ne met pas sur des piédestals, mais qui ont aussi leur face obscure, leur côté obscur. J'ai trouvé ça très bien traité. C'est joué par Marthe Keller.
Oui, extraordinaire. Qu'on ne voyait pas beaucoup finalement au cinéma à l'époque, déjà, malheureusement. Mais oui, qui est assez extraordinaire dans ce rôle de femme assez élégante, mais en même temps terrible, quoi. Enfin, qui casse sa fille, peut-être par. On peut expliquer de plein de façons, jalousie, et qui est à la fois fière de la réussite de sa fille, parce qu'elle découvre après la mort de sa fille en rangeant l'appartement, que sa mère a gardé quand même les articles de presse sur sa fille, sur sa découverte, donc il y a une certaine fierté, mais qu'elle n'a jamais su exprimer.
Oui. Oui, et puis j'aime beaucoup ces personnages qui, enfin, Blanc, Jeanne est censée sauver le monde avec
Oui.
son invention et qui foire dès le départ. Et il y a quelque chose. Au départ, elle saute dans l'océan pour essayer de récupérer sa machine, mais c'est tellement, enfin,
L'acte désespéré
oui, c'est
est
l'acte
ridicule, quoi, en
désespéré. Puis
fait.
c'est une mission qui est 10 fois trop grande pour elle,
Ouais,
quoi.
ça la dépasse
Ouais, ça la
complètement.
dépasse
Ouais.
complètement et je trouve ça d'emblée un personnage très touchant.
Bien sûr, c'est une anti-héroïne, hein, parfaite. Et puis, effectivement, on se demande comment elle va s'en sortir, hein, parce que tout l'accable. Et puis, bah oui, c'est cette rencontre avec ce personnage assez incroyable. On se demande d'ailleurs au départ, hein, qui il est, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, on s'en méfie presque, hein, c'est le kleptomane en plus. Et puis, petit à petit, il devient très, très attachant. Finalement, et parce il l'accompagne
Ouais,
aussi.
totalement. Ils sont a priori opposés de caractère, mais je trouve que c'est un duo comique qui fonctionne tellement bien, vraiment tous les deux.
Mais c'est un comique subtil. Enfin, c'est vraiment, c'est léger en fait, c'est drôle, c'est ironique. Donc, c'est ça qui est très appréciable.
Et de très beaux dialogues aussi.
Oui, c'est très très bien écrit. Effectivement, il y a une très très belle écriture dans ce film. Donc, si vous pouvez le voir, le revoir, n'hésitez pas à aller voir Tout le monde aime Jeanne de Céline Deveau. Vous êtes toujours sur Jet FM 91.2 à l'écoute de Filmez-moi.
Tango, take me by the hand, beautiful tango, oh, until you make me dance. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance? Come to the world, and baby, let me show you things. 'Cause time is running and we can lose. Baby, come and dance, we gonna make it through. 'Cause we've got time, yes, we've got time. Beautiful stranger, don't wanna know your name. Beautiful stranger, oh, just take me by the hand. 'Cause how sweet it can be if you make me dance. How long will it last, oh baby, if we the place where the skin speaks the secret words in Spanish, where the night turns out the lights of day for us to show some courage. So don't go if you wanna know, don't go if you don't know, don't go if you wanna know, don't go. Stranger, I wanna lose my mind. beautiful stranger in the danger of your arms. Oh, beautiful stranger, I wanna lose myself. Beautiful stranger in the danger of your arms.
Abordons maintenant le travail de réalisatrice, autrice et le parcours de mon invité, Céline Novelle. Alors, ça a commencé comment, cette envie de faire du cinéma, Céline ?
Ça a commencé à 16 ans. J'étais en première ou en seconde et j'ai fait un stage de découverte vidéo. J'ai 56 ans, donc on parle des années 80, on n'avait pas évidemment de smartphone, on était beaucoup moins, l'image était moins facile à voir, à filmer. Et ma mère m'a dit, mais tu sais Céline, les films ça se fait en fait, hein, c'est pas juste les voir, il faut les faire. Et ça a été une révélation pour moi.
Et tu allais beaucoup au cinéma quand tu étais petite, enfant ?
Mes parents étaient fauchés, donc je voyais quelques grands films qui sortaient ou que tout le monde devait aller voir, mais non, je voyais pas beaucoup de films, j'avais pas le droit de regarder la télé non plus, très peu, et du coup je lisais beaucoup.
Et c'est l'école en fait qui t'a un peu ouvert à la possibilité de
faire des films ? Ah non, c'est ma mère qui m'a inscrite à un stage. C'était hors école.
Ouais, okay.
Pendant les vacances.
D'accord, ok. Ouais. Donc c'était organisé par la municipalité ou,
Sans doute.
Oui, voilà. Ok, très bien. Et donc, le stage, et t'as pris goût, en fait, à faire quoi ? C'était quoi ? De filmer ou manipuler des caméras ou,
Raconter des histoires, sans doute.
D'accord.
Je suis pas du tout technicienne, moi. Pas du tout. Et du coup, je suis d'abord devenue cinéphile. Je viens de Lyon, qui est la ville qui est des Frères Lumière, oui. Donc les inventeurs pour la France du cinéma. Et du coup, il y avait beaucoup de cinéma. J'allais beaucoup au cinéma.
D'accord. Ok. Et donc après, donc le lycée, et puis après, est-ce que tu as continué des études de cinéma
ou... Ouais, j'ai fait de longues études de cinéma. J'ai commencé par faire une licence de cinéma, donc c'était théorie.
À Lyon. Ok.
Ouais, et du coup, ma cinéphilie vient de là. J'avais un bon bagage théorique. Et ensuite, j'ai voulu partir de Lyon. Paris, c'était pas dans mes moyens. Et du coup, je suis allée à Bruxelles. Le Bruxelles des années 90, c'était un Bruxelles beaucoup plus foutraque que maintenant, où on pouvait être fauché et habiter en centre-ville. Et j'ai tenté, d'une part, l'INSAS, l'école publique de cinéma, et je l'ai raté. Mais à chaque fois, j'allais jusqu'au bout. C'était toutes les semaines, on était éliminés, on était de moins en moins. Je m'y suis reprise à 3 fois. La 3e fois, quand même, je me suis dit, bon, s'ils ne me prennent pas, j'explose tout. Donc, j'ai aussi tenté une école privée qui est l'IAD. Et en fait, j'ai été prise aux deux. Et sur un coup de tête, j'ai dit, fuck l'INSAS, je vais à l'IAD.
Ok.
Voilà. C'était impulsif comme choix.
D'accord, ok. Et donc, tu as appris de la théorie, j'imagine, pendant ces études-là. Et ça t'a donné le goût, c'est là que tu as eu le goût de l'écriture ? Je ne pense pas, parce que tu lisais beaucoup déjà.
Ouais. Donc, en fait, L'école de réalisation, c'était très technique. Au contraire, j'ai appris donc le métier de réalisatrice. Hein, j'ai le diplôme de réalisatrice. Mais c'était réalisation aussi bien télévisuelle que documentaire que fiction. Et on n'a pas eu tant de temps d'écriture. On a peu appris, finalement.
D'accord. Et alors, le premier film que tu as réalisé, c'était quoi ?
Alors, le premier film que j'ai réalisé, c'était un autoportrait. Quand je vois la tronche que j'ai là-dessus, je me dis, oh là 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 là, j'ose plus me regarder.
c'est terrible le cinéma. Ah, voilà, ça laisse une trace. Hein.
Ouais.
Ça part pas.
C'est sans pitié. Et donc, c'était un autoportrait. Une sorte d'autoportrait filmé avec une petite caméra vidéo. Et ensuite, j'ai réalisé un court-métrage qui s'appelle Oh là là. C'est un premier court-métrage de fiction qui date de 2004, je crois, qui est en noir et blanc, sur une histoire d'amour qui rate, enfin, un rapprochement qui n'a pas lieu. Et après, j'ai fait un documentaire qui s'appelait Des vacances familiales. Ça, c'était un super dispositif de la ville de Saint-Herblain qui proposait à des familles qui étaient à la CAF aussi. C'était des vacances d'une semaine organisées en bord de mer dans un camping de la Turballe.
Et donc, tu les as suivies ?
Ouais, j'avais ma petite caravane.
Okay.
Je suis restée un mois à suivre chaque semaine. En fait, je me suis assez vite tournée vers les enfants parce que j'aime beaucoup les enfants. Je me sens plus proche d'eux que des adultes.
Tu as déjà tourné avec des enfants ?
Ah ben là, oui, mais alors c'était freestyle. Hein.
C'était, ouais, c'était le documentaire
dans le camping,
en plus. Donc,
ouais, documentaire.
Ouais, tu les suivais.
Ouais. Ah oui, puis quand même, pour les enfants, le camping, c'est la liberté.
Ouais.
Ils découvrent cette liberté. Donc moi, je les suivais et j'ai suivi les premières approches des vagues. C'était des enfants qui n'avaient jamais vu la mer. La première carte postale écrite. On se trompe sur tout. On met le timbre à l'envers. Enfin bon, ce sont des très bons moments. J'ai adoré cette expérience. Vraiment, ouais.
Et ensuite, tu n'as pas retourné avec des enfants dans les fictions
des films. Non, j'ai pas. Non.
C'est une expérience particulière aussi, j'imagine. Ouais. Ouais. Et alors, tu as fait aussi le dernier film que tu as fait, 2025, Enfin, elle les tue tous, qui est un film de fiction qu'on a pu voir au 14A, qui a été produit par
les
48 Rugissants, qui est une société de production basée à Brest, il me semble.
Non, à Rennes.
À Rennes, d'accord.
Enfin, Brest et Rennes.
Rennes. Alors, je raconte l'histoire. C'est l'histoire de Marilyn, caissière de cinéma, quinquagénaire. Un jour, il y a un casting qui est organisé dans son cinéma. Elle décide de saisir sa chance, quitte à affronter son directeur. Je n'en dirai pas plus. Ça va, j'ai bien
Alors résumé. Non, finalement, c'est plus un casting. Hein.
C'est plus un casting.
Une avant-première, ouais.
Une avant-première. D'accord.
Ouais.
Ok. Mais enfin, voilà, il se passe des choses.
Ouais.
Et ce qu'on peut dire, c'est peut-être un film un peu bon, qui contre un peu contre le patriarcat et la mainmise des hommes. Bon, c'est un peu réducteur, sans doute. Mais d'où te viennent d'ailleurs les idées des films ? Comment tu trouves tes histoires ?
Ce film, je l'ai développé pendant de longues années. J'ai commencé avec le parcours d'auteur et d'autrice qui est proposé par la plateforme, le pôle audiovisuel des Pays de la Loire, ce qui m'a permis de remettre le pied à l'étrier. Ça faisait longtemps que je n'avais pas tourné. Et ça m'est venu parce que j'ai travaillé longtemps comme caissière dans un cinéma. Et j'ai vu à quel point il existait peu de films de réalisatrices et à quel point, moi, vieillissant derrière ma caisse, j'avais envie de m'identifier à des personnages de mon âge. Et il y en avait de moins en moins. Au fur et à mesure que je vieillissais, je me dis, mais c'est pas possible, en fait. Les femmes de 50 ans et plus représentent une bonne partie de la société française, mais il n'y a aucune actrice de cet âge-là qui tourne, et plus, sauf quelques noms connus, évidemment. Tout de suite, on me cite, oui, mais il y a Isabelle Huppert, oui, mais il y a Juliette Binoche. Oui, mais enfin, ça fait deux, trois actrices qu'on connaît, et en dehors de ça... Et en fait, je me suis un peu penchée dans ces années-là, donc fin des 2018-2019 sur sur les chiffres, sur et puis sur la raison évidemment de l'absence des femmes de 50 ans qui ne sont plus assez désirables pour les hommes du même âge et qui leur préfèrent des plus jeunes femmes. Mmh. Ça paraît tellement caricatural quand je le dis. Mmh. Et en fait, c'est une réalité.
Alors, je pense que ça va peut-être changer. C'est peut-être en train de changer grâce au nombre de réalisatrices aussi qui émergent ces quelques dernières années et qui, je trouve, posent du coup un regard différent sur la femme, qui ont leur propre regard qui va peut-être permettre de ne pas hésiter à faire jouer des femmes plus âgées, leur donner des rôles principaux, en tout cas, et pas que le rôle de la mère ou la grand-mère. Donc, espérons en tout cas que ça ira dans ce sens.
Ouais, les jeunes générations, j'espère qu'elles vont se battre, mais le problème c'est toujours l'argent, et dans le cinéma français, ce sont encore beaucoup les hommes maintenant plus âgés qui détiennent ce pouvoir. Et quand on regarde vraiment les chiffres, en fait, il y a beaucoup de premiers longs métrages où les jeunes femmes sont présentes, et en fait, dès que les budgets commencent à augmenter, bizarrement, leur présence est beaucoup moins importante.
Et puis il y a peut-être moins de productrices aussi, je ne sais pas, dans le métier de production. Ouais. Peut-être que ça peut aussi expliquer cela. Alors tu as parlé de la formation parcours d'auteurice du pôle cinéma audiovisuel des Pays de la Loire, donc la plateforme. Qu'est-ce que ça t'a apporté de faire cette formation?
Ça m'a apporté d'abord de reprendre confiance en moi pour refaire un film, d'être aussi dans un groupe. Et quand on écrit un film, on peut être très solitaire. Et en fait, on porte beaucoup sur ses épaules. Et c'est une période... Moi, j'adore écrire, hein, et je connais beaucoup de gens qui adorent aussi écrire. Mais c'est quand même une traversée du désert. Et je me suis aperçue à quel point les échanges avec les autres nous donnaient de la force, nous invitaient à penser plus large que ce qu'on pense au départ. Et vraiment, ça a été pour moi une énorme découverte. Et j'ai rencontré Marianne Godillère, notamment, avec qui après j'ai fait des ateliers d'écriture.
Oui, tu as prolongé, donc en toi-même.
Tellement ça nous semblait important pour se soutenir, en fait, dans ces écritures-là.
Et ça continue?
Oui, moins, parce que chacune... gère beaucoup de choses, mais c'est quelque chose où on se retrouve toujours avec énormément de plaisir, et à chaque fois il sort de là des temps d'écriture surprenants. On poursuit avec Marianne, en fait on intervient dans le parcours d'auteur, d'autrice même maintenant sur une après-midi pour proposer aux jeunes participants et plus âgés d'ailleurs du parcours de voir comment le collectif peut nourrir le travail individuel.
Et quels sont les participants? Ce sont des personnes qui ont déjà travaillé dans le cinéma? Est-ce que c'est ouvert à tous? Comment se fait la sélection?
Je pense que la sélection tient au regard qu'on porte sur un sujet. Plus il est original, pertinent, personnel, plus on a de chances d'être pris, je pense.
Ok.
Je ne suis pas dans le comité qui choisit les projets, mais il y a aussi, en tous les cas, ce qui est certain, c'est que quand on se lance dans l'écriture d'un film, notamment en fiction, c'est toujours, souvent plus long que le documentaire, mais bon, ça dépend des sujets. Il faut être hyper endurant ou endurante, mais vraiment, il faut se lancer si... on a vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on ne peut pas lâcher.
Mais c'est ouvert aux débutants ou pas, ce parcours? Est-ce que tu sais?
Non, au premier film, certainement.
Au premier film,
c'est sûr.
Voilà, ok. Après, on trouvera les informations sur le site de la plateforme qui existe toujours et qui était un espace, on va dire, essentiel pour accompagner les jeunes auteurs, autrices de la région. Alors, Céline, est-ce que tu as des projets? Parce qu'il y a le film qui est sorti en 2025, donc. Et est-ce qu'il y a d'autres choses à venir ou est-ce qu'il y a des choses en gestation?
Oui, mais pour l'instant, c'est encore très vague, mais j'aimerais essayer d'écrire un long métrage sur la précarité d'une femme qui est obligée de cumuler plusieurs boulots pour vivre. Et aussi là, dans ma liste, il y avait Wanda de Barbara Loden qui parle de la difficulté parfois d'exister quand on n'a pas été reconnu comme enfant, par exemple, et qu'on doit se battre pour exister. Pour, voilà, c'est aussi un film sur la famille qu'on se choisit, qui peut être moins toxique que la famille nucléaire, quoi. Oui, et oui. Mais j'aimerais bien, voilà, faire quelque chose d'assez foutraque aussi autour de ce sujet.
Autour de ce sujet, voilà. Donc il y aura le temps de l'écriture, oui. La gestation, l'écriture, et puis après, voilà. Comment ça se passe après? Il faut trouver des, faut trouver un producteur, il faut trouver.
C'est très long, oui. En fait, tout ce processus. Ouais, il y a le temps de trouver un producteur. Il y en a qui vraiment sont suivis depuis longtemps par les mêmes. Et les financements, surtout, c'est ça qui est très compliqué.
C'est trouver différentes sources de financement.
Oui, ça devient de plus en plus difficile aussi parce qu'il y a moins de financements, tout simplement. Et il y a beaucoup de gens qui veulent réaliser des films. Oui. Donc, c'est dur.
Ouais. Bon, bah, écoute, on espère que tu y arriveras.
Oui, moi aussi, j'espère.
Oui.
J'aime écrire, donc voilà. Au pire, j'ai écrit.
Ben voilà, c'est déjà un grand plaisir en soi. Hein, voilà, une grande satisfaction. Vous êtes toujours sur Jet FM 91.2, à l'écoute de Film et moi.
Quoi que les gens d'ici pensent, s'il n'est pas partout la même heure, il y a peut-être une chance que l'herbe soit plus verte ailleurs. Souvent tu attends la nuit, quand plus rien ne fait mal, et tu rêves que tu t'enfuis à la nage par le canal. Tu rêves d'un grand pays, d'une vie qui enivre, comme celle que tu lis dans les pages des livres. Il est temps de vivre. Allons voir ce que la vie nous réserve. Ce que la vie nous réserve. N'ayons peur de rien. Tu meurs d'envie d'aller voir par toi-même faire tes preuves. Et si c'était la mer à boire, eh bien que la mer t'abreuve. Le ciel sera toujours bas à ceux qui vivent sans courage. Tu ne les écoutes pas quand ils disent ce n'est pas de ton âge. Et tu vas vers ce pays, vers cette vie qui enivre, comme celle que tu lis le soir dans les pages des livres. Il est temps de vivre. Allons voir ce que la vie nous réserve.
Passons maintenant à l'agenda du cinéma local. En ce printemps de renouveau, de riches programmations partout dans le département vous attendent, dont j'ai fait une petite sélection. Alors au cinéma 14 à Nantes, ne manquez pas le thriller politique haletant du réalisateur allemand Iker Çatak, Yellow Letters. Vous pourrez découvrir également le nouveau film de Claire Denis, Le cri des gardes, avec le splendide et trop rare Isaac de Mancollet et le puissant Matt Dillon. Vous pourrez également, toujours au 14 à, découvrir le nouveau film de la réalisatrice franco-tunisienne Leila Bouzid, À voix basse, avec Eya Boutera et Am Abbas, sur un secret de famille qui s'étale sur plusieurs générations. Au cinéma Concorde, replongé dans les années de dictature de Stroessner au Paraguay, la plus longue dictature du XXe siècle, avec le film documentaire de Juanjo Pereira, Derrière les drapeaux, le soleil. Le 3 avril, au cinématographe, découvrez le film documentaire de Clément Vinette qu'on avait reçu dans Film et moi, la première de Film et moi. Clément était venu. Donc son film s'appelle Les Rossignols, le 3 avril au cinématographe. Au cinéma Lutetia à Saint-Herblain, vous pourrez voir L'attachement de Karine Tardieu avec Valeria Bruni-Tedeschi et Pio Marmaille, adapté du sensible roman d'Alice Fernet, L'intimité. Et puis vous pourrez voir aussi au Lutetia La maison des femmes, les 3 et 5 avril. Aux archives départementales de Loire-Atlantique à Nantes, ne manquez pas l'exposition Grand écran, qui retrace l'histoire de l'image animée au travers de documents d'archives, d'extraits de films, d'appareils de captation et de projection. Et découvrez comment le cinéma s'est installé, s'est transformé, s'est réinventé en Loire-Atlantique, avec plein de conférences, et en particulier le jeudi 9 avril, les 80 ans du Club des cinéastes amateurs nantais. Très belle initiative de la ville de Clisson. Dans Clisson, le 10 avril à 20h30, parcourez la ville en visionnant des films des années 40, tournés dans les rues de votre balade, dans le cadre de Clisson à travers le cinéma amateur. Et plein d'autres films dans vos salles, du département, avec des programmations divertissantes, émouvantes, éprouvantes, éclairantes, résistantes. Alors surtout, gardez intact votre appétit de cinéma pour continuer à faire vivre vos salles préférées partout dans le département. Merci beaucoup Céline d'avoir passé ce moment en notre compagnie. Merci à toi.
Avec plaisir. À bientôt.
À bientôt et bon vent à toi. Et merci à Jérôme pour son accompagnement technique. Et Jérôme qu'on peut retrouver dans l'émission La bande-son autour des musiques de films tous les lundis à 20h sur Jet. On se retrouve très bientôt pour le prochain Film et moi sur les ondes de Jet.
C'était Film et moi, l'émission cinéma mensuelle sur Jet 91.2. Retrouvez-nous aussi en podcast sur le site de Jet, jetfm.fr.